C'est l'histoire, vous savez, de Épictète, là, quand il s'est cassé le bras,
Oui,
voilà. Et puis, voilà, l'idée, c'est que si on se place du point de vue du tout, ce qui est mauvais pour l'un, en fait, finalement, contribue au bien du tout. Et c'est vraiment une vision sociale qui est celle des animaux, vous savez, des insectes sociaux. C'est-à-dire une fourmi qui se fait liquider pour le bien
fourmilière.
de la fourmilière, ou etc. Mais du coup, on voit qu'il faut se passer du point de vue du tout. Et vous voyez, c'est des choses qui ressortent. Moi, quand j'étais à l'hôpital, j'avais lu un traité de biologie de classe préparatoire fait par des Canadiens. Canadiens, voilà. Et ben la grande idée, c'est qu'on se plaçait toujours du point de vue de l'espèce. C'est-à-dire qu'en fait, c'était presque platonicien. C'est-à-dire, n'existe que l'espèce, et les individus de l'espèce ne sont que comme des organes de l'espèce. Hein, nous, on se dirait à la limite, on perd son doigt pour sauver notre vie, etc. On perd un morceau, mais on sauve le tout. Eh bien, là, c'est à peu près la même chose. Les individus n'existent qu'en fonction du tout, de l'espèce. Et je me souviens que dans ce traité de biologie, évidemment, on transposait à l'être humain ce qu'on avait déclaré juste pour les espèces animales ou végétales, etc. Voyez? Donc ça, c'est aussi un... Alors, pour le stoïcisme, il faut toujours se placer du point de vue du tout. Et la morale stoïcienne, c'est de renoncer au point de vue individuel pour se placer au point de vue universel. Et du coup, comme par hasard, ça rejoint beaucoup la morale de l'Extrême-Orient. Je crois que c'est le Karl Jaspers, qui était un philosophe allemand, qui avait parlé de la pensée, enfin de la pensée axiale de il plaçait cette espèce de, comment dire, de doctrine qui était répandue partout dans les grandes civilisations au moins 5e siècle. On retrouve les mêmes idées chez les Grecs, chez les Indiens à l'époque des avant le avant l'hindouisme proprement dit, mais à l'époque des Vedanta, et puis dans le monde encore plus oriental de l'Extrême-Orient. Autrement dit, cette idée que finalement, mais vous voyez, c'est aussi une méthode pour aménager la vie terrestre sans désespérer, hein, parce que vous faites l'expérience quotidienne du mal, surtout à ces périodes où finalement la vie est quand même bien précaire. Et alors, une manière mentale de sortir de la terreur de la mort, c'est de dire, bah, finalement, la mort, c'est un point de vue maladroit. Enfin, la peur de la mort, c'est un point de vue maladroit. Si je me mets adroitement à considérer le tout, ma mort, finalement, n'est qu'un épisode qui enrichit la totalité, en fait. D'une certaine manière, ce sont des doctrines qui sont comme des béquilles pour que les sociétés se perpétuent.
Mais ça empêche toute résistance spirituelle à la tyrannie, enfin. C'est une sorte de maintenant tu es à la base de toute résistance.
Exactement, parce que finalement, la grande question de la liberté et de la dignité de la personne est complètement inconnue. Hein. Le mot personne, il faudra l'inventer avec le christianisme. Alors on prendra des mots grecs ou des mots latins. Mais vous voyez, quand on va dire personne, on va prendre le masque du théâtre. Donc c'est pour bien dire que quand même, le concept n'existait pas. Il a fallu qu'on aille prendre un objet et qu'on lui donne une signification qu'il n'avait pas au début. Et même chose en grec, eleutheria pour liberté, c'est un terme qui est très peu utilisé dans le grec ancien. Et vous voyez, enfin, on voit comment un certain nombre d'esprits supérieurs ont commencé à critiquer ces doctrines, comme par exemple Platon, mais aussi comment dire, les tragiques, en fait, les Sophocles et autres. voilà, qui ont commencé à introduire la notion je dirais, de personne en tant qu'elle est une réalité irréductible, l'irréductibilité de l'être humain. Voilà.
L'Antigone, peut-être.
Oui, ben voilà, oui. Alors que sinon, c'est jamais qu'un rouage dans un système. D'ailleurs, c'est un des éléments de la critique de Saint-Augustin, de la civilisation romaine, hein, dans le De Civitate Dei, justement, il opposera à cette espèce de structure sans âme, en quelque sorte, qu'est la cité romaine, eh bien, en fait, la résistance de la personne, hein, toujours pour le même motif qui est théologique, à savoir que la personne humaine dans le christianisme, elle est appelée à diviniser et elle a une destinée éternelle, alors que dans la pensée religieuse des anciens, c'est quand même beaucoup moins évident. Hein. Alors, donc voilà. Alors, pour le manichéisme, donc, il va insister sur le mal comme étant non pas une sorte de coprincipe du bien, mais une absence de bien et d'un bien dû. Hein, par exemple, le fait de ne pas avoir d'aile pour nous, ce n'est pas un mal dans la mesure où notre nature ne l'exige pas. Mais en revanche, ne pas avoir Dieu, c'est un mal parce que notre nature l'exige. Alors là, vous voyez, ça rejoint aussi tout à fait l'actualité, hein, que des hommes n'engendrent pas par eux-mêmes, ce n'est pas un mal. Dans la mesure où ils sont pas, notre nature ne l'exige pas. Par contre, effectivement, la stérilité peut être un mal dans la mesure où c'est notre nature exige que l'on soit fécond. Mais donc là aussi, il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de enfin, à mon avis, beaucoup d'erreurs, et dont certains d'ailleurs exploitent à fond. Voilà. Alors aussi, deuxième point dans lequel, sur lequel Augustin va s'opposer aux manichéens, c'est en soulignant l'unité du Dieu de l'Ancien Testament et du Dieu du Nouveau Testament. Parce que quand les manichéens parlent de... les manichéens, donc disons les Iraniens, parlent d'un dieu, un dieu bon et puis un dieu mauvais, donc Mazda et Ahriman, là. Pour les chrétiens, c'était facile de se dire, bah oui, finalement, nous, on a la même chose. On a le dieu un peu cruel de l'Ancien Testament et puis on a le dieu gentil du Nouveau Testament. Le Père de Jésus d'un côté et le dieu créateur de l'autre. Et alors ça, du coup, Augustin va dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Et comment va-t-il s'y prendre? Bah, notamment à partir de cette notion d'allégorie qu'il avait découverte auprès d'Ambroise, qu'il avait lui-même découverte auprès des pères grecs qui en faisaient un grand usage, c'est-à-dire de comprendre que ce que dit l'Ancien Testament est en vue du Nouveau et que tout ce qui est dit dans l'Ancien parle du Christ. Et donc, ce qui peut être choquant dans l'Ancien Testament doit être lu simplement au sens allégorique et non pas littéral. Et donc, être interprété. Voilà. Autrement dit, le christianisme introduit l'herméneutique comme d'une manière nécessaire pour sauver l'unité de Dieu et à travers l'instrument de l'allégorie, vous voyez. Troisième point, c'est la plus grande crédibilité de la doctrine catholique, notamment à travers l'idée de tradition. Puis aussi, il s'était rendu compte que ses contradicteurs n'étaient pas très intelligents. souvenez que quand il était plus jeune, il avait été consulté un évêque donatiste, un évêque manichéen. Il avait été horriblement déçu de son manque de profondeur, alors que, au contraire, Ambroise l'avait séduit par son intelligence et sa bonté. Alors, donc ça, le manichéisme. Alors, deuxième grande controverse, alors qui va l'occuper plus longtemps, c'est le donatisme. Alors, le donatisme, il est issu de la résistance aux persécutions de Dioclétien, comme il y avait eu déjà des schismes à l'époque des persécutions de Dèce au milieu du IIIe siècle. Eh bien, au début du IVe siècle, donc cette terrible persécution qui va se prolonger d'ailleurs dans l'Orient, oui, entre 304-305 par là, et ça va se prolonger jusqu'en 312 à peu près avec Maximien en Orient. Donc le donatisme est issu de la résistance aux persécutions de Dioclétien. Les donatistes s'affirmaient les seuls purs, parce qu'ils avaient résisté.
Pas réintégrer les autres.
Voilà. C'est là que Saint-Cyprien intervient.
Alors Saint-Cyprien, c'est à l'époque de la persécution de Dèce, mais c'était la même problématique.
Seul pur, il pouvait pas.
Sauf que du temps de Saint-Cyprien, la réduction du schisme a été plus rapide. Elle n'avait pas pris autant d'importance. Et là, elle va prendre beaucoup plus d'importance, d'abord parce que la persécution sera plus longue, et il se trouve que les donatistes, pourquoi donatistes ? À cause d'un certain Dona, qui était leur chef, vont prolonger ou asseoir leur critique religieuse sur un élément ethnique et un élément, on pourrait dire, social. L'élément ethnique, c'est qu'ils vont recruter surtout chez des Berbères, qui sont, vous voyez, aux limites des provinces romanisées et puis du Sahara. Et aussi parce que ils vont recruter parmi les laissés pour compte, les nomades pauvres contre les sédentaires enrichis, les riches sédentaires. Et donc ces donatistes qui se prétendent les héritiers de ceux qui n'ont pas trahi au moment de la persécution vont former des bandes révolutionnaires et qui maniait le gourdin avec beaucoup de facilité. C'est un peu comme les Bagaudes, vous voyez, qui ont dévasté la Gaule à certaines périodes quand l'Empire était en décomposition.
Ils étaient imposés aussi.
Oui, alors il y avait tous les réfractaires du fisc. Alors, vous savez, enfin là aussi, c'est peut-être un peu actuel, mais quand la pression fiscale dépasse un certain degré, les gens s'y soustraient, vous voyez. Et alors, à l'époque antique, alors ils se réfugiaient dans le désert. Par exemple, le désert était toujours très mal famé, non seulement parce qu'on croyait qu'il y avait des démons, mais il y avait aussi tous les gens qui fuyaient la société et qui se regroupaient en bandes, en bandits, et qui du coup ne rendaient pas qui faisait que, par exemple, la Haute-Égypte n'était pas extrêmement sûre. Hein. Il y avait des fortins de l'armée un peu partout. C'est d'ailleurs dans un de ces fortins que Saint-Antoine s'est établi, avant d'aller plus loin. Mais on a eu ça aussi dans la partie occidentale de l'Empire, justement avec ce qu'on appelait les Bagaudes. Hein. C'était des gens qui étaient pressurés par le fisc, qui, plutôt que d'être contraints à l'esclavage, du coup, fuyaient dans les bois. et formait des bandes qui tombaient sur, qui attaquaient les routes, enfin, ou les villas, etc. Donc là, finalement, les donatistes font pareil dans l'Afrique du Nord romaine, latine. Alors, sur le plan religieux, alors, d'abord, ils se refusaient au dialogue, puisqu'on ne dialogue pas avec les héritiers des traîtres, des lapsis. Et il niait, évidemment, du coup, l'efficacité des sacrements donnés par l'Église, en disant « vos sacrements valent rien parce que vos évêques valent rien, puisqu'ils sont les héritiers d'une Église qui... voilà, d'une Église qui a accordé son pardon à des gens qui ont renié, et puis après, une fois que la persécution est partie, qui sont revenus dans l'Église. Alors, Augustin prend conscience du danger dès 393, à peu près, au moment où il est devenu prêtre, et il va chercher pacifiquement, par la discussion, comme il avait fait avec les manichéens, à réduire le schisme. Parce qu'une église qui prend son parti de la division cesse d'être une église. Hein. L'église, elle est faite pour être totale, quoi. Donc d'embrasser tous les baptisés dans une même structure. Et Augustin voit dans l'unité... eh bien, le sceau est de la vérité et de la charité. Unis dans la vérité, mais aussi c'est le signe de la charité. Or, il fait l'expérience que les donatistes errent par rapport à la tradition, dans la mesure où ils ne reconnaissent pas la validité des sacrements donnés par des évêques, les évêques qui avaient réconcilié les lapsis. Contrairement à ce qui a toujours été confessé, à savoir que c'est la succession épiscopale qui fait la validité des sacrements et pas, à la limite, la sainteté de celui qui l'exerce. Et puis, deuxièmement, qu'en se refusant de manière abrupte au dialogue, en fait, il niait ce qui est pour Augustin, par-dessus tout, le signe de l'unité qui est la charité. Et Augustin dira combien de fois, vous êtes nos frères et vous nous dites, nous ne sommes pas vos frères. Alors, il critique donc leur particularisme et leur prétention pharisaïque d'être les meilleurs, puisque descendants de ceux qui n'ont pas flanché, ce qui les empêchait pas d'être ensuite non seulement manqué de charité, mais aussi d'avoir une vie pas toujours non plus parfaite. Hein. Et alors, il fait preuve d'une patience exemplaire. Il dit que le baptême confère un sceau inadmissible, même s'il est donné hors de la véritable Église. Si bien que Augustin se refuse à rebaptiser les donatistes qui viennent à l'Église. Par contre, les donatistes, eux, considèrent que le baptême des catholiques est invalide et rebaptisaient les catholiques qui passaient au donatisme.
Ils étaient formés où ?
Alors, bah, ils avaient leur propre hiérarchie. Alors justement, ce qui était impressionnant, c'est que c'était plus comme à l'époque de Tertullien, où il y avait des petits schismes, où les schismatiques étaient une toute petite proportion de l'Église, ou du temps de Cyprien déjà. Mais là, maintenant, à l'époque d'Augustin, c'est la moitié de la population d'Afrique du Nord qui est donatiste.
Et pourquoi ils étaient donatistes ? Il y avait des raisons sociales ?
Bah oui, un peu ces raisons. Donc c'est ethnique et sociale, finalement. Ils recrutaient dans...
Ils avaient tous résisté ou s'agrégeaient ?
Il y en avait certains qui avaient résisté et leur chef Donna avait tellement, avait eu des paroles tellement vives, etc., qu'il avait réussi à convaincre
des gens. Mouvement.
Oui, c'était un mouvement.
Il n'avait rien à voir avec
Non.
Ce que les gens avaient réellement fait.
Non, parce que du temps d'Augustin, vous voyez, on est quand même près d'un siècle après la persécution de Dioclétien. Donc, il n'y avait plus un seul survivant de la persécution de Dioclétien. Mais il y avait donc des gens qui s'étaient constitués en églises parallèles, un peu comme finalement les luthériens ou les calvinistes feront au XVIe siècle. Hein. Donc c'est vraiment un schisme qui s'était instauré avec des prédicateurs. Alors, vous savez, prêcher la vérité et la charité, ça fait en général moins d'effet sur les foules que de leur prêcher la violence et puis des idées un peu... des idées un peu simplistes. En général, sur les foules, plus c'est rude et plus c'est simple, plus ça marche. Et mieux ça marche. Et de fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc la subtilité n'était pas tellement leur fort, mais du coup, ça marchait sur des populations d'idiotas, comme on dit en grec ou en latin. Et du coup, il y avait des foules entières qui se... Puis comme ils faisaient preuve de violence, ils intimidaient aussi. Par exemple, dans un village, les catholiques qui restaient, ils avaient intérêt à devenir donatistes aussi, parce que, je vous dis, ils faisaient preuve de violence. Alors, malgré tous ces efforts, et Augustin vraiment va multiplier les synodes d'évêques pour former ses autres confrères. Pour qu'ils aient une position, unitaire vis-à-vis du schisme, pour qu'eux-mêmes soient exemplaires dans leur vie, pour qu'ils prêchent à leur population. Enfin bref, disons, dans une perspective, je dirais, de réforme de l'Église officielle. Alors, il ira jusqu'à... composer un psaume contre les donatistes à usage des rustres. Alors, il fait des conférences à ses confrères évêques dans les conciles provinciaux. Il prêche à son clergé, à ses fidèles de la cité épiscopale, etc. Mais les braves gens des campagnes éloignées d'Afrique du Nord... alors du coup, il va leur composer un psaume qui est une sorte de catéchisme rimé à apprendre, vous voyez, qui s'apprend par cœur facilement avec des rimes et des ritournelles pour que les gens connaissent la doctrine catholique. Et donc vous avez un psalmus contra donatistas, contra partem donatistarum, je crois bien, un truc comme ça, donc à usage des rustres. Mais ça marche pas, ça marche modérément, hein, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des donatistes qui se convertissent, mais d'un autre côté, on perd des catholiques. Hein. Et il va changer de tactique à partir de 400, en multipliant les écrits et les synodes.